Bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, votre animateur du podcast. Je suis également directeur du développement des affaires chez Lacoste. Le podcast Expérience 4.0, c'est une initiative propulsée par Groupe Lacoste dans le but de justement créer, partager du contenu sur la transformation numérique en général. Mais évidemment, on parle d'expérience client, on parle des opérations de revenus, on parle d'intégration de technologie. Puis l'objectif, c'est de discuter avec des experts dans l'industrie, donc des experts en tech, oui, mais aussi des gens, des entreprises industrielles, manufacturières, des dirigeants qui vont parler de leur parcours, de leur sens de l'innovation, mais aussi de certains projets qu'ils ont entamés. Donc ça, c'est super intéressant. Puis c'est un peu le sujet aujourd'hui dont on va parler. Je reçois Louis Veilleux et Gabriel Allard de chez Groupe Mondial, qui ont aussi des entreprises sous le groupe dans le domaine industriel manufacturier. Un beau groupe qui a justement entamé une démarche de transformation numérique depuis quelques années. Donc on va en discuter aujourd'hui sur le podcast. Donc tout le côté standardisation des processus, mobilisation de l'humain derrière l'intégration de technologie lorsqu'on veut entamer une démarche d'Industrie 4.0, c'est extrêmement important. Donc, il y a des erreurs à éviter, il y a des bons coups qu'on peut prendre exemple. Donc, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous dis bonne écoute, bon podcast.
Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client.
Louis, Gabriel, merci de participer à Expérience 4.0 aujourd'hui.
Merci Simon, ça cette fois-ci ici. Alors, ce beau vendredi,
vous descendez de la Beauce, là. Ouais. Donc, vraiment, merci d'avoir fait la route puis de venir me rejoindre dans ce beau terroir de Montréal, ici, avec des routes assez spéciales, hein, merci.
Il y a des rangs dans la Beauce plus beaux que ça.
Merci, messieurs. Donc, dans un premier temps, avant d'entamer un peu le vif du sujet sur la transfo numérique, j'aime toujours introduire mes invités, parler un peu de vous autres, background, aussi un peu décortiquer, qu'est-ce qu'est Groupe Mondial, puis en quoi ça consiste le groupe, là, tu sais, je sais qu'il y a des entreprises, donc d'expliquer un petit peu peut-être la hiérarchie puis la structure. Donc, commençons par toi, Louis. Louis, président, fondateur de Groupe Mondial derrière.
Fondateur du Groupe Mondial, mais les premières entreprises, j'étais un releveur, donc je suis rentré comme releveur au départ, comme directeur général de la première entreprise qui était Metal Bernard, CDMB. En fait, il y avait deux entreprises, le premier achat. Et c'est des entreprises de sous-traitance industrielle, donc du métal en feuille. C'est assez intéressant quand on regarde l'écosystème québécois, parce qu'au Québec, on a une grande spécialité dans le métal, ça a l'air de rien. Au Canada, on est les numéro un. Et le Québec, avec ses petites, moyennes et grandes entreprises, a établi un besoin qui est assez unique de sous-traitants performants pour être capable de que les grands donneurs d'ordre soient capables de faire des autobus, des trains, des camions électriques, des avions, name it. Alors, on est dans ce pool de sous-traitants industriels-là. Bref, on a 260 membres d'équipe. On n'a pas d'employés, nous, c'est des membres d'équipe, c'est très différent. On est sur deux sites différents. On travaille sur trois quarts de travail. On est diverse. On a 36% de diversité. On est des gens qui trippent sur les ESG. En fait, je le dis pas à la blague, je le dis très sérieusement, c'est rien qu'un front. Parce que ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment seulement qu'un front pour être capable de vivre vraiment notre mission de transformer positivement des vies. Moi, je suis un petit peu en dehors du secteur des études et du manufacturier. J'étais plus philosophe dans l'âme sans avoir réussi toutes les cours. c'est vraiment de vivre notre philosophie, de transformer positivement des vies. Puis quand on regarde ça, finalement, ça fait du business sense beaucoup. On faisait rire de nous autres il y a quelques années quand on parlait beaucoup de l'humain puis que tout le monde disait, écoute, c'est pas si important que ça. Aujourd'hui, ça rit moins. Mais c'est très... Les conséquences de ça, c'est que... On a un plan de relève. Moi, à 39 ans, j'ai mon premier plan de relève. J'ai pensé à 39 ans, comment... Et beaucoup de gens n'y pensent pas, malheureusement. Fait qu'on va parler peut-être de relève, mais si on revient, on parle de 4.0. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle du 5.0 parce qu'on y est déjà. L'humain, évidemment, et niveau environnemental. La conscience environnementale, pour moi, je suis un late bloomer, mais better late than never. Fait qu'on est là, on y est arrivé. Mais on dessert, on aide des entreprises partout au Québec, en Ontario, aux États-Unis, avec le produit, mais aussi avec notre petite touche humaine, notre petite touche connectivité. Mm-hmm. Et on a vraiment du fun, en fait.
C'est ça qui est l'important. J'ai toujours su que tu es un homme passionné dans ce que tu fais, mais aussi avec le sens de l'innovation, oui. Mais un sens très humain, puis c'est de là. Moi, j'ai adoré ton discours justement à l'événement STIC. Donc là, je me souviens plus exactement le titre de l'événement qui c'était. Là, c'était pas le baromètre, mais c'était les enjeux manufacturiers. Je pense que c'était une conférence sur les enjeux manufacturiers. Ouais. Que j'ai adoré ton discours, la façon dont tu le vulgarisais, puis tu plaçais beaucoup l'humain qui était derrière. Vraiment, ben ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Puis c'est vraiment... Ben, agréable d'avoir une personne comme toi derrière un peu le portrait manufacturier québécois. Donc chapeau, Louis.
Mais c'est pas une personne, c'est une équipe.
C'est une équipe, oui, mais ça vient du leadership. Ouais, ça vient, tu sais, faut faire le premier pas, tu sais, dans un premier temps pour créer une équipe, tu sais. Ouais. Fait que chapeau à ce niveau-là.
Ben, parlant d'équipe.
Et voilà, ben, Gabriel, justement, merci aussi pour ta participation puis de joindre Louis, justement, dans cette discussion. Directeur de la transformation numérique du groupe. Parle-moi un peu de toi, de ton background aussi. Qu'est-ce qui t'a amené là?
Ben, en fait, moi, à la base, j'ai commencé dans le shop. J'ai commencé à découper au laser là, en même temps de faire mes études. Je faisais mon bac en génie mécanique. J'avais déjà ma technique en poche. Donc, vraiment commencé sur le plancher de fin de semaine. Ensuite, là, divers projets, que ce soit de la programmation offline de presse, plieuse, chargé de projet, estimation, qualité, ISO, travailler un peu partout. Puis, à un moment donné, côté technologie, on en parlera un peu plus tard, là, mm-hmm. mais beaucoup de projets au niveau changement d'ERP, système manufacturier, fait que mon nom est sorti du chapeau, levé à main, fait que ça m'a amené là, vraiment dans tout le côté transformation numérique là, qui connecte un peu au niveau du génie mécanique, mais je connaissais déjà beaucoup les processus, je connaissais l'entreprise, j'avais une certaine facilité en technologie, donc ça m'a amené dans ce beau chemin-là. Puis là, maintenant, on est rendu avec une équipe là, multidisciplinaire au travers des sites, là, avec ingénieurs, programmeurs, chargés de projet, là, puis on continue à implanter de la technologie dans nos entreprises puis à simplifier le processus.
Ah, très cher. Moi, je pense que ça va en faire des jaloux. Là. Il y en a une couple qui vont faire comme « je veux cette personne-là là. ». Mais on va en parler de justement création un peu de cette équipe de Jedi là, à l'interne pour la transformation numérique. Je pense que ça fait partie un peu de la discussion aujourd'hui. Puis ça va pousser peut-être ou mousser des réflexions pour ceux qui nous écoutent ou ceux et celles qui nous écoutent de comme « ah, regarde, j'aimerais savoir un Gabriel à l'interne ». C'est une équipe.
Il y en a probablement.
Il faut aller les. C'est ça, parce que fondamentalement, c'était pas ça. Comme tu disais, tu faisais des opérations de production à l'interne.
Puis la majorité de l'équipe vient de l'interne, en fait. C'est ça. On est allé chercher. On a deux programmeurs qu'on était cherché un peu plus à l'externe. On n'avait pas ça nécessairement sur le plancher dans le shop. Quoique des fois, on se rend compte qu'on a des gens qui ont pas mal plus de background d'un côté informatique et technologique que ça. Mais le reste, c'est des gens qui étaient dans le processus, qui étaient peut-être plus sur leur X, qui étaient plus sur. Même moins ce qu'ils faisaient, puis ils cherchaient autre chose, puis il y avait certaines facilités des fois au niveau technologique ou qui avaient un intérêt du moins, puis dans l'équipe, puis la formation que t'as pas, on va te la donner, puis grandis avec nous, tu connais le processus, puis let's go.
Clairement, tu sais, au final, t'as des soft skills, t'as des skill sets des fois qui nécessitent, peut-être un peu d'études, mais au final, ça s'apprend. Les technologies, ça va vite aujourd'hui, puis vous le savez, c'est pas parce qu'on implante une technologie que dans 6 mois, elle est pas optimisée ou elle est pas revoir, t'as des fonctionnalités qui débloquent, puis t'as plein de choses, t'as un écosystème global, fait que t'es constamment en apprentissage, fait que même si t'es pas un expert dès le départ, ça s'apprend, puis par justement la force de l'équipe, on est capable d'amener l'entreprise ou des entreprises à un prochain niveau, puis faire bénéficier beaucoup plus de personnes.
Vraiment.
Je saute un peu dans le sujet, fait que merci pour l'intro. Donc encore une fois, là, pour ceux ou celles qui nous écoutent, qui veulent en savoir davantage, sur Metal Bernard, le groupe mondial, venez aller suivre Gabriel puis Louis sur LinkedIn, communiquer avec eux. Louis, il répond. je sais qu'il est bien occupé, il répond, même s'il y a à peu près une cinquantaine d'appels à l'heure. Je niaise bien, mais il répond, ça va vous faire plaisir là, d'en apprendre davantage. Ils ont un beau parcours et un beau bagage actuellement. Messieurs, la transformation numérique, Louis, t'en as parlé un petit peu. Pour vous, là, en quoi ça consiste une transformation numérique? Ou, on parle d'industrie 4.0, là. Ça serait quoi votre définition de ça dans une entreprise? Je sais que c'est large, là. Ouais. Mais pour vous, chez Metal Bernard ou du moins Groupe Mondial?
Si on laisse de côté les buzzwords 4.0, 5.0, tout ça, à la base, là, c'est l'amélioration continue appliquée aux technologies. Là, c'est vraiment une division de l'amélioration continue, en fait. Puis c'est comment qu'on peut prendre la technologie pour aider nos processus, nos humains. Puis continuer à s'améliorer. T'sais, ça fait partie de ce grand processus-là.
C'est bien dit.
Oui, c'est en fait c'est la naissance de le buy-in qu'on a eu, c'était vraiment à cause que ça fait, dans la vision que nous, on a fait du 4.0, non pas ce qui nous a été poussé dans la gorge par bien du monde qui aurait voulu. C'était vraiment revenir à la base de l'amélioration continue. Faut que ça soit lean, faut que ça soit simple, faut que ça soit à échelle humaine et non pas un petit groupe de personnes dans un bureau qui décident là, comment ça se passe. Fait que l'intégration, c'est comme n'importe quel projet ou plan qu'on amène dans une entreprise, c'est l'exécution qui est vraiment l'important. Mm-hmm. Et t'sais, on dit, on s'est donné les moyens. On sait que si on se donne les moyens d'avoir des gens à l'interne, je suis vraiment un pro de ça, là, j'ai rien contre la consultation, vraiment pas. Ça prend des experts externes, des fois, qui viennent nous aider. Mais si t'as pas si t'as pas l'équipe pour venir implanter et maintenir et faire grandir ça, mm-hmm. ben il va te manquer de quoi. Fait que, oui, et le travail des consultants externes quand ils viennent chez nous, il faut vraiment qu'ils soient bons.
Ouais,
non, parce que c'est pas trop long qu'on voit que il y a
le choix des partenaires est important.
Vraiment.
C'est la base de tout.
Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. En fait, on a même une personne qui est responsable du développement de nos fournisseurs. Fait que tu sais, on peut pas laisser on ne peut pas partir avec un produit médiocre pour essayer d'avoir de quoi d'excellent. Il faut partir avec de l'excellence pour devenir parfait.
Ah, d'accord. Mais c'est bien ce que tu dis. J'ai une anecdote par rapport à ça. Ça me fait penser. Je viens du milieu sportif.
Ouais.
Puis j'ai un bon chum à moi là, en ce moment qui développe développement d'affaires pour une technologie pour un genou. Là. Donc, c'est un produit au final. Là, il fabrique cette composante-là. Puis là, il va rencontrer des équipes sportives de haut niveau dans le soccer, pour être plus spécifique, à travers le monde. Récemment, il est allé en Angleterre, à Manchester City, qui est un des clubs les plus riches sur la planète actuellement. Ouais. Puis il a réussi à avoir une rencontre là-bas avec une personne spécifique qui est un médecin, donc un docteur à l'interne, que lui, sa seule job, c'est d'évaluer les différents partenaires potentiels qui peuvent venir soumettre une solution à Manchester City. Donc, un docteur que lui, sa job, c'est, il reçoit énormément de demandes, donc de filtrer. Ah, lui, ça pourrait faire du sens pour peut-être une rencontre découverte. Ça, non. Puis c'est vraiment son unique job. Donc, ça revient au point que le choix du partenaire est extrêmement important, surtout lorsqu'on a déjà entamé quelconque structure. Là, on a déjà créé quelque chose, puis que là, on veut l'optimiser, mais là, encore plus, le choix va être important pour avoir une valeur ajoutée.
Commencer à zéro, la structure est importante. La gouvernance de tout ça, la structure est importante parce que, tu sais, avoir des gens à l'interne, c'est pas le hasard. Là. C'est vraiment... C'est dans la planification. Mm-hmm. Mais comme Gabriel l'a bien expliqué, ça ramène à la simplicité de dire que c'est comme de l'amélioration continue. Là.
C'est bien dit. Donc, on parle d'amélioration continue, mobilisation de l'humain. Puis je suis quand même curieux, puis on en a jasé un petit peu avant le podcast, mais on a défini un peu la transformation numérique, puis c'est super bien dit. Le déclic chez Groupe Mondial, le déclic chez Metal Bernard ou dans les différentes entreprises sous le groupe, c'est parti d'où pour entamer cette démarche-là?
En fait, je dirais, là, je vais lever la main à nos fonctionnaires. On a au Québec une chance d'avoir des gens qui ont une vision stratégique au gouvernement. Puis là, je parle des fonctionnaires. Souvent, le MEI, on fait un de nom, là, je ne me souviens plus comment il s'appelle, là, mais le ministère des entreprises, là, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant. Là, comment
innovation, dire, technologie.
MDEI, quoi de même. Là. Tu vois, ils sont durs à suivre. Le marketing n'est pas de job, par exemple. Mais...
Ça pourrait être simplifié, maintenant.
Ça pourrait être vraiment simplifié. Là, un peu, au niveau... au début des années 2000, ils ont poussé vraiment le Québec à devenir lean. Et ils ne se sont pas gênés pour vraiment tambour et trompette. Et c'est la même affaire quand le gouvernement a décidé de faire un virage numérique, parler du 4.0. Comme d'autres États, et non les moindres, comme l'Allemagne. T'sais, l'Allemagne avait un avance sur nous, mais ils ont été assez rapides pour... Bon, bref, c'est les premières approches ont été là. J'avais la chance à ce moment-là d'être sur un comité consultatif avec Investissement Québec. Mm-hmm. J'avais aussi un collègue là-dedans. On était deux entrepreneurs de la Beauce, un peu du Québec, de la région de Québec, puis un peu tannant. Et lui, c'est un tripeux de 4.0. Yves Proto, il n'y a pas à dire, j'étais avec lui, il m'a amené beaucoup à réfléchir. Et il y a des lectures super intéressantes, des voyages en Allemagne, on a fait des voyages en Allemagne aussi ensemble, mais le sommet de Davos, ouais. Il y a de la documentation gratuite extraordinaire. Et c'est ça, avec cet amalgame-là, moi, qui m'a fait croire vraiment que c'était pas juste un buzzword, mm-hmm, ou quelque chose qui était temporaire, ou une affaire que les Siemens de ce monde nous vendent plus de patentes. Ouais.
Fait que c'était comme un déclic qui provient un peu d'une initiative un peu du gouvernement, une genre de mission commerciale avec la documentation, puis justement avec un autre entrepreneur qui partageait un peu, ouais, le même thinking, ouais, innovant, qui t'a poussé à avoir ce déclic-là, de dire, ouais, je saute pieds joints dans la formule, dans la démarche.
Ouais. Puis on t'est rendu là aussi. Okay. Il y a
côté timing. Processus et tout ça, on avait un système qu'on commençait à arriver au bout, là, dans le fond. Là, mm-hmm. On voulait croître, on voulait continuer à se développer, s'entraider entre nos différentes usines. On voulait avoir plus de capacité, mais de se l'échanger, puis s'il y a des bris ou quoi que ce soit, d'être capable de vraiment travailler en synergie, tout le groupe ensemble. Puis on frappait un mur. Fait que, tu sais, la base de tout ça, tu sais, oui, il y a eu un déclic, mais après ça, ça a été quoi la base? Bien, on n'avait pas de transformation numérique ou d'équipe, là, 4.0 initialement, mais en changeant de RP, puis là, ben, en regardant, bon, ben oui, ça se maintient. Tu sais, il y a quand même un coût au niveau, il faut rester à jour, il faut essayer d'améliorer les processus. Fait que là, ben, une équipe s'est bâtie au travers de tout ça pour supporter le reste de nos processus. Puis ben, c'est vraiment là que ça fait un déclic. Puis l'équipe s'est créée un peu par elle-même, en fait. On voyait les opportunités, on voyait la collecte de données, on voyait les processus qu'on pouvait simplifier. Fait qu'après ça, un coup qu'on avait le pied dedans, là, on s'est laissé aller. Là. On a fait acte de foi. Là.
C'est intéressant. Puis on va revenir sur les projets que vous avez faits. Je veux le garder. Tu as mentionné le RP, puis là, je suis excité à en parler. mais avant ça, j'ai un point à vous poser comme question, parce que là, ça, c'est un déclic, puis ça, c'est le fun. Je pense que ça part d'un thinking, ça part d'un sens innovant de vouloir dans un... Je dirais de vouloir croître, là. On s'entend là-dessus. Mais souvent, même de mon côté, je me fais souvent dire ben, on n'a pas le temps. T'sais, le temps, le temps. Puis, ouais, on n'a pas le temps, on est dans le jus. Ou bien, ah non, les commandes, ils rentrent. T'sais. Puis en effet, t'sais, ça serait dommage qu'une business ne roule pas puis qu'ils veulent investir dans l'innovation, on se comprend. T'sais. Fait que c'est un beau problème que ça roule. À quoi vous répondez à ça, on n'a pas le temps? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de bon timing. Je pense qu'il n'y a jamais de timing où, aïe, moi, devant moi, j'ai un mois où j'ai vraiment rien à faire. Fait que, ouais, go, on implante un système où on entame une démarche. J'imagine, vous autres, ça roulait à vitesse grand V quand même pendant ce temps-là.
Ouais.
Fait que oui, tu as un déclic, mais après, de passer à l'action,
ouais,
c'est quoi le thinking qu'il faudrait avoir? Comment vous répondez au fait de « je n'ai pas le temps? »
Ouais. Il n'y en aura jamais de temps.
C'est sûr,
je veux dire, surtout avec la rareté de main-d'œuvre et tout ça, on s'entend, c'est pas mieux. Là. Mais il faut le prendre parce que sinon, on se met à risque dans le futur. Les entreprises qui prennent le virage, en fait, ben, ils continuent à croître puis ils accélèrent. Puis ça a été notre cas aussi avec les dernières années. Fait que c'est un outil pour croître. Là. Fait que c'est un peu mal nécessaire. T'sais, si on n'est pas à jour là-dedans ou si on ne s'est pas assez gardé à jour, ben, y a une coupure à faire. Puis ça reste que c'est une base, là, en fait. Là. C'est d'aller chercher la base pour après ça continuer à évoluer. Puis ça se fait. On faisait un go live de trois entreprises en même temps. Ouais. On parlait tantôt dans le groupe, ben, on a vraiment mis la switch on, les trois entreprises en même temps. Plein de choses qu'on disait, on fera pas d'interco, d'échange de sites et tout ça pour commencer. On met la switch on. Bon, si quelqu'un vous dit qu'un go live, c'est le fun, on ne se cachera pas. Là, c'est... Partez à la course, là, si vous dites ça. Là.
C'est stressant. C'est stressant dans tous les cas.
C'est quelque chose.
C'est mieux de dire à tes clients que ça se peut que ça rote un peu dans le système. Là,
ouais, hein.
Là,
ouais.
Mais on l'a fait. Premier mois de go live, le meilleur mois de vente à vie pour le groupe. Deuxième mois, il a battu le premier. Ça a pris 2 semaines, on faisait de l'interco. Fait que tu sais, on a pédalé. Là. Ça n'a pas été facile, là, on s'entend. Mais
vous l'avez fait.
On l'a fait.
Ouais. En fait, la grande victoire de ça... Écoute, ça n'a pas été facile, là. Puis s'il y en a qui m'écoutent, ils vont comprendre. Ils ont souffert avec nous autres là-dedans. Mais c'est toujours, moi j'ai toujours, quand on a un problème, je suis pas toujours apprécié pour ce que je réponds. Je dis toujours qu'il y a une opportunité, il faut qu'on trouve l'opportunité quand il y a un problème. Bon, oui. C'est pas ça que tout le monde va l'entendre, mais dans cette opportunité-là, on a eu une opportunité de ramener notre équipe encore plus ensemble. Alors, ça l'a soudé. On avait déjà une très belle synergie entre nous, mais ça nous a amené beaucoup plus ensemble. Et ça l'a aidé vraiment à ce qu'on se déploie à notre plein potentiel. Ce que Gabriel a dit, c'est vraiment, tu sais, notre mission, tu sais, je parlais de notre grand rêve de transformer positivement des vies. Bon, on l'a fait pas tout à fait les trois premiers mois. Là,
peut-être pas un gros live, ça a été.
Ouais, on transformait des vies, là, mais pas tout à fait. C'était rough. Mais l'entraide et le partage, c'est vraiment s'entraider, partager, bâtir. On voulait bâtir, on veut bâtir un Québec industriel plus fort, plus gros, puis on veut être capable de bien servir, de vraiment d'avoir les meilleurs services à nos clients, parce que eux autres aussi, le besoin grandisse, la vitesse va plus vite. Il faut qu'ils soient plus efficaces, il faut qu'ils soient plus low cost, qu'eux autres aussi ont de la misère avec la rareté de main-d'œuvre. Alors, l'entraide et le partage ont amené qu'on voulait travailler vraiment mieux entre nous, entre nos entreprises, parce que, on l'avouait devant le micro, on avait parfois plus de misère à faire de l'ouvrage entre nous autres qu'avec nos sous-traitants. Pense à ça, je viens de dire là c'est...
Ah, mais c'est une bonne...
Ça a été un déclic.
Non, mais tu sais, c'est... Non, mais on est
transparent. C'est honteux, là.
Oui, mais je pense que vous n'êtes pas les seuls.
On est sûrs.
Tu sais, vous n'êtes pas les seuls, tu sais.
Mais pour répondre à ta question, après ça, qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'on est trop occupé? Bien, si quelqu'un te dit plusieurs fois qu'il est trop occupé, puis tu lui amènes la solution d'agir, et il n'agit pas, parle-moi plus que tu es trop occupé, là. Tu n'es pas intéressé de régler ton problème. Si un entrepreneur te dit qu'il y a des problèmes, qu'il ne fait rien pour les régler, hey, arrête de parler de tes problèmes, là, tu sais.
C'est que ça va bien dans ce cas-là. Tu aimes ça être occupé, puis c'est bien correct comme ça.
Mais tu évolueras pas, là. Exactement. Tu sais, quand on a... Alors, il faut revenir toujours... Moi, je reviens encore à la philosophie. Si tu veux vraiment faire ton mandat de grossir parce qu'on veut transformer plus de vie, on veut faire plus d'entraide, plus de partage, mieux s'occuper de nos partenaires, autant nos fournisseurs que nos clients, bien, il faut être prêt à souffrir pour être belle.
Oui, mais c'est vrai.
Ça, j'ai amené Gabriel quand même. mais sérieusement, c'est ça. Il faut se donner les moyens et de bien l'organiser, tu sais, d'avoir des processus que... On ne se lance pas dans le vide sans parachute de secours quand même.
Oui, non, on essaie de minimiser les risques.
Oui, c'est ça.
Puis c'est là où, tu sais, c'est un bon point ça aussi. Tu as un déclic, à un moment donné, il faut un sens. Bon, le leadership, il faut mobiliser un peu l'équipe et tout. Puis il faut sauter pieds joints, mais on ne saute pas pieds joints dans le vide d'un building à 45 étages. Là,
c'est tout, le choix des partenaires aussi. Dans toute notre sélection d'RP et tout ça, au final, les deux, trois qui restaient dans le pipeline, côté le chien, il faisait le job, là. C'était pas le problème. On cherchait le meilleur fit avec l'intégrateur. Puis, ben, c'est ça qui a fait la décision. Là.
Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est intéressant au niveau des plateformes. Fait que, tu sais, j'ai pour mon dire, nous, on a plus dans les logiciels. Bon, c'est ARM, mais ERP, c'est ARM, veut pas, là. Tu sais, ça répond à des besoins différents, mais au final, c'est deux pro logiciels qui répondent à la gestion de certaines opérations, que ce soit front office, back office.
Ouais.
Un CRM puis un ERP, ça reste un CRM puis un ERP. Que tu ailles avec un Microsoft de ce monde, un Salesforce, un Epicor, un ci, un ça. Ça va répondre des fois à des besoins spécifiques. Et voilà. Puis je pense pas qu'il y a vraiment de plateforme aujourd'hui là, qui fait un 360 là, complet avec notre petite wishlist ici et là, à moins que tu le custom de A à Z. Puis encore là, tu vas avoir des embûches.
Puis des wishlists, il faut s'entendre. On n'a pas réinventé la courbure de la Terre. Là. Come on.
C'est ça. Fait que, tu sais, je reviens à, tu sais, t'as un fit avec la plateforme, oui, mais tu sais, après, c'est la façon dont tu vas l'intégrer. Ouais. C'est le côté humain du partenaire, oui, vraiment. Mais le côté humain interne, ce fit-là qui est important, parce qu'il y a rien de pire qu'un logiciel non utilisé, sous-utilisé ou mal intégré. Hein? Ça peut être un cauchemar.
Tout à fait.
On parle de ça, sautons direct dedans. On parle beaucoup d'ERP. Fait que là, je me doute que vous avez implanté un ERP, je le savais.
Ouais.
Mais en termes, justement, de projet, fait que, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de dire lequel que vous avez choisi. Puis un peu cette démarche-là que vous avez prise. Fait qu'on a le déclic, on a sauté. Ça a été quoi un peu cette démarche-là? Bon coup, mauvais coup? Je vais vous entendre un peu là-dessus.
Ouais, ben OK, on va essayer de faire ça court. Bref, ça s'est quand même fait là, en quelques années. Là. On avait vraiment... Le système qu'on avait était complètement désuet, puis on voulait s'assurer de ne pas se tromper. Fait qu'on a quand même pris là, presque un an au niveau de faire la sélection pour faire nos devoirs sur qu'est-ce qu'on cherchait comme logiciel. Bon, on est parti d'une liste là, de fous. Là. On a envoyé une couple de courriels, on va avoir une shortlist là, là-dessus, ouais. Quelques questions de base. On a rencontré beaucoup. À la fin, là, au final, j'en parlais, il y en avait trois. Puis, tu sais, c'est des gros. Là, on avait des sidelines, des SAP, des Picard en boucle. Puis, tu sais, on savait que c'était pour faire la job là, côté manufacturier.
Parce qu'on voulait croître, on voulait pas. On aimait mieux avoir un V8 pour pas manquer de moteur où ce qu'on s'en allait.
Ben, l'homanie, c'est important aussi.
Ou une grosse batterie, là,
parce qu'on est rendu... rendu là, puis il y en avait d'autres là, dans la boucle, que ce soit Microsoft, whatever. Là, c'est tout des bons logiciels, là, mais ce qu'on cherchait vraiment, c'est le fit avec les intégrateurs. Fait que, on a passé un gros moment dans le processus de vente là, à faire des preuves de concept, puis travailler avec eux, essayer de voir c'est quoi le fit. Pour au final, on a terminé avec Epicard. Là, puis, okay. on en parle là, parce qu'on aime bien ça aussi savoir d'autres entreprises qui l'utilisent, de d'échanger avec eux dans d'autres domaines et tout ça. Fait que là-dessus, on a quand même c'est assez populaire au Québec. Oui. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont là, puis on est toujours curieux d'échanger là-dessus sur les bonnes pratiques. Là, fait que bref, au niveau de l'implantation, nous, on avait deux systèmes, là, comptabilité et opérationnel, qui étaient séparés. Donc là, on a commencé par tasser le côté comptabilité, mettre Epicard le plus rapidement possible. Écoute, il y a différentes façons de voir les choses, mais nous, ce qu'on savait, c'est que plus la comptabilité arrive vite dedans, bien, plus ils vont être à l'aise quand les transactions vont arriver automatiquement. Oui. Parce que quand tu es déconnecté, ben, tu traverses les factures d'un système à l'autre et tout ça, mais tu n'as pas tout le visuel et le détail. Quand tu arrives dans un RP, tes transactions matérielles, de travaux en cours, les factures et tout ça, ça rentre vite. Là, autant tu es capable de tout monitorer que s'il y a une erreur, ben, écoute, elle se popule rapidement. Là. Fait que la première année, ça a été de switcher le côté comptabilité. Puis après ça, ben, on parle qu'on a fait les trois entreprises en même temps. Ben, côté opérationnel, là, c'est trois entreprises. Là, puis... go, on met la switch on, puis on commence là. Puis on n'a pas commencé, on va commencer par juste la production ou juste les bureaux. Non, on quote tout cash, là. Soumission okay. Jusqu'à la facturation, all-in, pour essayer d'enlever tout ce qu'il y avait comme classeur Excel ou autre programme à côté. On voulait vraiment s'assurer de standardiser nos processus. Fait que quand la switch est mise à on, ben, c'était l'ensemble du processus. On laissait finir les dernières jobs dans l'ancien système, puis let's go. Okay. Fait que, de bout en bout, là, au niveau de la sélection jusqu'à l'implantation, ça a pris un 3 ans. Mais c'est trois entreprises. Fait que, ouais, c'est exact. Un go live, trois entreprises. Vire ça à l'envers, là, trois go live dans trois entreprises aussi. Fait que ça a été un bon morceau. Puis on fait pas exception. Là, on dit toujours qu'on va faire différent des autres. Puis nous, ça va aller bien. On va l'implanter. Ça va aller super rapidement. On va mettre les ressources. Mais on fait du métal. On a pris des gens de la production, des gens des bureaux pour amener avec nous autres pour implanter. Mais...
c'est un bon point, c'est la mobilisation interne. C'est ça, je suis curieux. Dans le processus, on dit 3 ans, j'imagine que pendant ce processus-là, il y a eu des bons coups. Donc, est-ce que cette mobilisation-là de l'équipe au complet pendant le développement de la plateforme, bien aussi pendant ce temps, c'est beaucoup de standardisation de processus. Ouais, ouais. Parce que le développement en soi dans la plateforme, ça se fait bien. Tu as des partenaires pour ça, puis c'est pas ça qui est complexe en soi. C'est quand tu connais bien ta plateforme, évidemment. Mais c'est quoi les processus qu'on va intégrer à la plateforme? C'est de quelle façon
on va les déjà les adapter parce que, tu sais, prendre un progiciel ou un ERP et d'essayer de le mettre à sa main avec ses anciennes pratiques que tu souffres déjà, je pense qu'il faut embrace les nouvelles pratiques et de se mettre prêt à... à faire du EDI, à faire des transferts de données, à avoir de la qualité de données avec lesquelles tu travailles, à te connecter à tes machines. Si tu pars avec... tu refais ce que tu essaies de refaire ce que le logiciel fait, tu vas prendre peut-être plus que 3 ans ou tu vas faire une intégration très rapide, mais encore là, c'est lean. Plan, do, check, act. Ben, le plan a été long. Et on a mis... ben, en fait... on a souffert de notre go live, c'est à cause de moi. Parce que Gabriel m'avait demandé un petit peu plus de délai. Et moi, il y a un mois, de temps en temps, je suis moins patient. Le restant de l'année, je suis toujours très patient. Et ce mois-là, il...
t'étais dans l'impatience.
Ouais, mettons. C'est ça. C'était mon mois d'impatience. Il fallait qu'on aille live. On aurait attendu un peu, on aurait eu moins de souffrance. Par contre, je crois toujours que quand la lumière verte elle allume dans l'avion, là, c'est le temps de sauter en parachute. Sans ça, tu manques ton target. Mm-hmm. On était là, on sentait que la pression s'en venait. Je ne croyais pas qu'on aurait autant d'ouvrages à faire. Mais il reste que process, de revoir nos processus complets, ça a été bénéfique. Et ça nous a permis d'avoir une méchante croissance.
Oui, vous avez vu des... comme rapidement... oui, on a souffert 3 mois, mais je pense que toute entreprise qui va go live pour un système ERP du moins... vont souffrir, no matter what.
Mm-hmm. Hey, j'ai une de nos entreprises qui n'en a pas souffert, là, parce que j'ai d'autres compagnies, là, puis il y a eu un go-live hyper rapide, mais une plus petite compagnie. Là,
ça dépend des process aussi, ça dépend des processus, grosseur de l'équipe et tout. Ça peut bien se faire, effet, mais c'est sûr que là, vous mentionnez quand même 3 entreprises en même temps, puis le quote to cash au complet qu'on numérise d'emblée, vous avez décidé d'y aller all-in. Certains vont donner, on minimise les risques, mais en même temps, on le sait très bien qu'on risque, ça risque de bardasser un petit peu. Mais au final, je reviens au côté comme bénéfique suite à l'implantation. Vous avez su croire, vous avez vu un ROI, si on va se le dire, positif suite à l'implantation, qui est des fois difficile à calculer, là, de même, out of the blue. Là.
Ouais, non. Calcul des ROI, on n'est pas très bon pour ça. On fait confiance au process.
C'est ça,
on est déjà plus de fois. Mais vous avez remarqué le côté... parce qu'en effet, je suis d'accord, si un ERP, des fois, c'est difficile de dire. C'est pas comme tu automatises une machine ou tu mets un gros robot devant une machine et tu es capable de dire, mais elle roule toute la nuit et tu es capable de faire X temps par pièce. Tu n'as pas un humain devant, fait que boum, rentabilité, ça se calcule facilement. Un logiciel de même, c'est plus efficacité, peut-être temps à faire certaines opérations.
Ben, toutes les KPI et les KBI sont là. L'EBITDA, c'est amélioré. On parlait avec les dirigeants d'entreprise. L'EBITDA, c'est amélioré. Puis ça coûte une fortune, cette affaire-là. La productivité s'est améliorée de manière significative. Il fallait, parce qu'il faut rester compétitif là, face au restant du monde. On est dans un domaine hyper compétitif. Fait que, tu sais, on ne peut pas se permettre d'avoir ça d'épais de gras. Il faut... Ça nous a aidé énormément. Le taux de mobilisation, pour nous, c'est vraiment important. Puis le nombre de vies qu'on a transformées. On a un KPI sur notre site web. C'est super important. Là, ça fait partie, quand je dis qu'on revient toujours à l'humain, là, c'est vraiment ça. Là, le nombre de vies, il est là. Ça a eu une bonne vitesse là-dedans. Dans nos KPI, ce qui est important pour nos clients, on-time delivery, PPM, vitesse d'interaction, transfert juste à temps, EDI, tout ça, là, EDI, comment c'est quoi en français? Là, ça?
C'est pas mal, Electronic Data Interchange.
C'est
pas mal commun.
En France, ils appellent ça de même, tu sais.
On les connaît. Les acronymes anglophones, ils se traduisent pas, malheureusement.
C'est ça. Dans ce que tu dis, on les a, les KPI, mais... avoir été dans le passé dans notre ancien système, on n'aurait pas eu les données. Ouais. Fait que,
des fois, c'est pas aussi accès,
ça, c'est d'avoir accès, d'être capable de se monitorer, de voir qu'on croit, de voir que pourquoi c'est les chiffres augmentent ou diminuent. Beaucoup plus de réponses, puis quand tu bases tes décisions sur de la donnée, tu as plus de chances de prendre la bonne.
Et voilà, c'est un bon point.
Puis on s'éduque mutuellement vers, quand on regarde notre prix de revient, on a maintenant notre processus est super bien établi. On est en daily management system, en gestion quotidienne. Et on a des rythmés, là, beaucoup de rythmés. Donc, on a un rythme de rencontre qui se fait que on est toujours en train de regarder nos altimètres, notre avion. On sait où est-ce qu'on s'en va. Parce que l'altimètre est là, tous les autres pitons d'un avion, là, on les suit là, très, très bien. Mais l'on-time delivery, tout ça, c'est important quand tu... Quand tu rencontres un partenaire et que tu es capable d'affirmer que toi, ton PPM, il est de 35, c'est le fun parce que j'ai assez confiance en mes données. Et ce que je m'aperçois, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui ont la donnée, elle n'est pas existante, elle est moins bonne. Alors, la qualité de données nous amène à être un partenaire de classe mondiale avec nos clients parce que... les fabricants d'équipements, les équipementiers, les OEM avec qui on travaille, ils peuvent pas avoir de variance. Il ne faut pas avoir de variance. Eux autres, quand on met ça sur la ligne de montage, là, c'est ça s'assemble une heure plus tard. Là. Fait qu'on peut pas. Alors, il faut réduire le plus les variances. Et si tu n'as pas de bonnes données, tu fais pas les bonnes actions. C'est encore le fameux lien.
Mais c'est bien dit.
Quand tu arrives dans les états financiers et tu vois que les résultats montent ou descendent, mais tu sais pas pourquoi, tu n'es pas plus avancé.
Il est déjà là, ton retour, là, c'est avoir accès à cette donnée-là. Vous avez bien dit. C'est... puis d'avoir sa propre donnée. Là.
Ouais.
C'est de pas la règle du pouce aujourd'hui. Là. Tu peux l'avoir à certains égards, des décisions, des fois entrepreneuriales ou même des décisions d'affaires que tu vas prendre règle du pouce puis ça va marcher. Oui, ça, des fois, c'est la foi, c'est le gosse. Ouais. Mais de mettre l'entreprise au complet, sa règle du pouce, aujourd'hui, avec la compétition, avec la nouvelle économie qu'on dit qui est très tech, là, tu peux plus. Faut que tu ailles ta donnée.
En fait, c'est intéressant ce que tu disais, Simon, parce que je pense que c'est un mélange important des deux. Mm-hmm. D'avoir des processus qui sont clairs, qui sont établis sur des données fiables, tu es capable d'amener ton équipe dans la raison. Mais il faut jamais, puis là, c'est encore mon rôle de philosophe industriel, là, mais c'est vraiment, il faut jamais arrêter d'avoir la foi. Mmh. Et d'avoir la foi dans ce qu'on fait, de dire qu'à travers notre équipe 4.0 pour nous, 5.0 maintenant, sky is the limit. Puis j'ai quasiment la question de me demander what is after the sky? Tu sais, on peut dépasser, là. J'ai pas le syndrome, on n'a pas le syndrome d'une équipe. C'est notre relève qui est super forte. On a des gens extraordinaires. On a des plans A, des plans B, des plans C dans notre processus. Et on a des logiciels qui sont là pour nous soutenir. On sait que la fondation est assez épaisse pour monter des murs autant qu'on veut là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment important. Et c'est important pour nos partenaires. C'est un des affaires qu'on parle pas souvent, mais nos fournisseurs sont payés, on paye super bien, on a toujours très bien payé nos fournisseurs, et nos fournisseurs sont mieux payés aujourd'hui qu'ils l'étaient. On essaye contre notre philosophie d'étirer des fournisseurs, disons. Oui. On leur demande d'être performant, on leur demande d'être bon, on leur demande d'être connecté avec nous autres. Le respect du paiement est...
C'est important.
Ben, écoute, c'est primordial. C'est non négociable.
Exact.
Et la même affaire, si on a des partenaires, des clients qui ne nous payent pas, moi, je viens d'une autre réalité. J'ai travaillé longtemps pour Canam. Marcel Dutille disait, un client, c'est le client, c'est le boss. En autant qu'il paye. S'il ne paye plus,
c'est plus le boss. En effet. Non, c'est important. C'est, puis les logiciels nous permettent justement puis la standardisation des processus, ça amène une certaine valeur, ça amène un certain prestige aussi de hey, on est organisé nous autres. Puis ça amène une notoriété derrière la collaboration d'affaires, inévitablement.
Oui, puis tu es capable de scaler up. Mm-hmm. C'est que tu es capable de faire des acquisitions, tu es capable de grandir tes équipes et la base, elle est la même. Fait qu'on. D'être 10 dans une entreprise puis de se comprendre, il y a beaucoup de non-dits puis il y a beaucoup de... Tu n'as pas besoin de te parler tant que ça, mais quand tu es rendu 260
répartis.
Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Mais répartis, justement, qu'on soit capable de s'envoyer de la passe, mais à distance.
Oui. Des fois présentiel, mais surtout à distance.
Oui, oui.
Ah, c'est bien dit. Je fais un pas de recul dans votre démarche un peu d'implantation. Parce que j'ai aimé, là, on l'a un peu réparti, on est allé jusqu'à l'implantation avec, je te dirais, un certain ROI. On va l'appeler de même, là, mais les bénéfices un peu suite à l'implantation. Ouais. Pas de recul, je reviens jusqu'au départ. Gabriel, peut-être tu vas pouvoir m'en dire, puis Louis aussi, n'hésite pas à ajouter ton grain de sel. Tout ce qui est peut-être mauvais coup. Qu'est-ce qui aurait pu être évité ou du moins mieux fait dans la démarche? Puis on parle pas du go live tout de suite, peut-être qu'on a été un peu pressé. Mais... t'en as-tu ou des conseils à travers ça que peut-être des erreurs à éviter?
Oui, puis tu sais, sans partir nécessairement du go live, on s'entend, on fait toutes les mêmes erreurs là, pour l'implantation de ERP majoritairement. Là, c'est faux prendre nos ressources, des bonnes ressources, qui sont là, puis qui sortent de la job, puis qui aident l'entreprise, mais c'est souvent eux autres qui connaissent l'entreprise. Bon, évidemment, il faut essayer de ne pas remettre, comme Louis l'a dit, les anciennes méthodes de travail dans le nouvel outil. Ça, c'est une première affaire. Ouais. Il y en a des développements là, qu'on a fait puis que finalement, après quelques mois d'utilisation, on les a enlevés. Ce n'était pas nécessaire. Fait qu'il faut comprendre un peu. Mm-hmm. On achète un logiciel. Lui, qu'est-ce qu'il peut nous amener puis pourquoi il fonctionne comme ça? Pas commencer à le challenger tout le temps. Ouais. On a choisi une solution. Laissons-y la chance. Puis bien s'entourer d'une équipe, là, tu sais, c'est pas un one-man show, là. Ça prend une équipe, puis d'entretenir cette équipe-là. Tu sais, nous, un des enjeux qui est arrivé, justement, pendant le go-live, on a perdu deux personnes qui étaient importantes dans l'équipe, justement, pour l'implantation. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aide pas à un go live, là, on s'entend. Mais c'est projets qui sont de longue haleine, fait que c'est des risques, fait qu'il faut que tu aies plus que rien que 3 personnes dans ton équipe.
C'est sûr. En effet. Ça, tu peux pas éviter la situation parce que les personnes, s'ils vont partir, ils vont partir. Par contre, tu peux te mettre un petit coussin en dessous de minimiser les risques, puis d'avoir peut-être plusieurs personnes, plusieurs têtes autour du projet. Exact. Donc, vous allez souffrir en effet parce que tu enlèves quand même 2 ressources, mais vous avez justement mobilisé une quantité de personnes raisonnables pour le projet.
Tu sais, oui, c'est un projet technologique, là. Un ERP, on s'entend, mais c'est l'humain, là. Je veux dire, tu sais, c'est les humains qui vont, les membres d'équipe qui vont l'utiliser, qui vont mettre de la donnée dedans, qui vont décider ce qu'ils veulent utiliser puis ce qu'ils veulent pas utiliser, puis t'en rendre compte peut-être juste 2 mois après que c'est pas utilisé. Fait que, tu sais, vraiment, là, l'intégration, la formation, la sensibilisation des gens, puis, tu sais, d'être à l'écoute de leur feedback aussi, là. Tu sais, nous, on a tout notre système de tickets puis de feedback à travers les membres d'équipe, tu sais, on va être à l'écoute de leurs suggestions. T'sais, nous, on met quelque chose des fois en place, une modification, quoi que ce soit. On le sait que ça marche. On l'a mis en place, mais on ne l'utilise pas 50 fois par l'heure, là, à l'heure. Fait que, on a besoin de feedback pour savoir, bon, côté rapidité, c'est-tu le bon processus? Ça reflète-tu ce que tu fais plancher? T'sais, nous, on veut s'assurer que le système répond à ce que tu fais plancher si ce que tu fais plancher est optimal.
Exact.
Sinon, ben, on trouve un juste milieu. Est-ce qu'on peut améliorer ton processus? Est-ce qu'on peut? Fait que c'est toujours un back and forth là-dedans. Là, on a besoin de feedback sur le plancher. Puis les outils qu'on a le moins de feedback, ben, c'est les outils les moins utilisés souvent.
Fait que là, il y a une décision à prendre.
Exactement. Fait que là, ben, il faut voir est-ce qu'il n'est juste pas utilisé parce qu'il n'est pas compris. T'sais. Souvent, c'est ça. On met de quoi en place? N'entend pas parler. Problème.
Ouais, exact.
T'sais, faut aller au-devant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que tu l'as utilisé? T'sais, faut vraiment être à l'écoute. Là. L'humain fait part entière de ça. Là. C'est pas juste une bébelle informatique que tu installes, tu fais OK, next.
Non, c'est pas ça. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on en parle, on en a déjà parlé sur certains épisodes, puis on parle des fois de l'expérience client. T'sais. Fait que le client, honnêtement, tu l'as bien mentionné aussi, Louis, tout à l'heure, mais et vous avez des bénéfices justement d'amélioration par rapport à la livraison, just in time, puis vous répondez aux besoins du client. Oui, ça, c'est une chose. Mais pour avoir une bonne expérience client, faut avoir une bonne expérience employée, il faut avoir un bon système de gestion.
Tes clients internes.
Et voilà, fait que ton système de ticket que justement que tu as mentionné interne, c'est oui, avoir le customer support, là, le service à clientèle pour le client, une bonne chose, mais l'avoir interne, honnêtement, c'est la première fois qu'on le mentionne. Je pense que c'est un bon truc des fois peut-être à implanter en interne pour être à l'écoute. Parce que c'est votre équipe, c'est vos membres qui vont l'utiliser pour répondre à cette expérience client-là.
Oui, bien, c'est une amélioration continue.
Et là, voilà.
Ça, on revient encore à la même base qu'on disait au début.
Très sharp.
Et tu sais, dans les erreurs, parce qu'on va... Des choses qu'on a faites, on a un processus qui est très gazelle, qui est très... on fait des projets trimestriels, on essaie de régler nos problèmes dans 3 mois. Alors, vraiment... Parfois, on a eu trop de projets informatiques en même temps qui tiraillaient nos ressources quand même et les résultats étaient moins là. Et quand on avait besoin d'externe, bien, quand on a besoin d'externe, on peut pas... il faut vraiment s'assurer, surtout dans le COVID puis tout ça, comment ça a été difficile. Les externes étaient juste pas là puis on avait de la misère à faire... nos projets tels qu'on est habitué de les faire. En 3 mois, c'est réglé, ça marche et bravo, on passe au suivant. Fait que ça a été assez difficile. Évidemment, dans les... ça a coûté plus cher que ce qu'on pensait aussi.
Oui, ça,
c'est assez standard.
C'est rare que l'entreprise dise, ça a coûté moins cher.
Oui, c'est ça.
Mais là, beaucoup plus cher ou comment
tu vois? Oui, quand même pas mal. Très belle voiture. quelques belles voitures. Mais aussi, je dirais, dans les débuts d'implantation, la foi de notre équipe de finance n'était pas là tout à fait. Et on a mis trop sur les épaules de personnes qui n'étaient pas assez, qui n'avaient pas autant la foi et on ne les a pas bien épaulées. Alors, écoute, moi, je continue à croire que, parce qu'on a vécu aussi, ça prend un plan A, un plan B, puis un plan C. Il faut vraiment, quand tu entreprends ça, si ton processus, il y a un nom, un prénom puis un nom de famille, tu as un problème parce qu'on se fait... Il y a une réalité. Là. Il y en avait deux. Avant, si on payait de l'impôt, puis on mourait. Ben, à cette heure, c'est rien qu'on meurt. Là. Le président des États-Unis qui nous a montré qu'on pouvait ne pas payer d'impôt. Fait que, c'est, qu'il en reste rien qu'un. Puis il y en a peut-être un qui va vaincre la mort, mais on n'est pas rendu là. Fait que...
Mais non, je comprends parfaitement. Puis c'est quand même, oui, des coûts à éviter, je pense, des fois, sont inévitables à certains égards. Mais si on est capable de le mettre en place le plus possible, des minimiser les risques, avoir une équipe qui est mobilisée, puis c'est des bons points, Louis, que tu as mentionné. Allons vers les bons coûts, puis vous l'avez mentionné, je suis curieux d'en apprendre plus sur la création un peu de cette équipe-là. Évidemment, ça provient de ce déclic-là, puis ça s'est comme moussé un peu tout seul. Mais je suis quand même curieux, vous avez quand même une équipe de transformation numérique. Gabriel, tu diriges cette équipe-là, si on veut. De où c'est parti? Puis en quoi ça consiste, cette équipe-là, concrètement?
Oui, bien, initialement, en fait, là, c'est vraiment parti de l'implantation du RP. Tu sais, on s'est rendu compte, bon, on a engagé un programmeur, il nous a aidé un peu dans certaines adaptations. Pour, tu sais, on le disait, on aime bien ça, tu sais. Oui, aller chercher de l'externe, mais pour apprendre, pour gagner en compétences, être capable d'être le plus autonome possible.
Avoir un esprit critique.
Oui, aussi. Mais d'être vraiment autonome dans le processus. Bon, évidemment, il y a des choses qu'on ne touchera jamais, puis c'est bien correct. Là, le but, c'est d'être d'en faire le plus qu'on peut. Puis au travers de ça, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des superstars là, qui ont levé aussi à certains endroits. Fait que, on parle de l'équipe rapprochée, oui, c'est correct, mais on a une équipe élargie dans la transformation numérique, nos super users, nos gens vraiment là, qui vont s'assurer de faire vivre un peu toute cette culture-là dans l'entreprise. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, là, de la propager. Fait que c'est né, oui, on a créé un département de transformation numérique, mais ça s'est allé tout seul. Là, en fait, là, on n'a pas commencé à avoir une vision, il faut un département, il nous faut ça. On y allait sur on a des projets, ben on prend des gens, il y en a qui le vendent à main, il y en a qui étaient peut-être moins sur leur X, comme je parlais tout tantôt. Fait que, c'est des amener avec nous, des gens qui ont progressé, puis ça, ben, on a beaucoup dans l'entreprise des gens qui ont progressé, que ce soit du plancher, d'un bureau jusqu'à directeur général dans certains cas. Ouais. Passer le balai à directeur général, c'est quand même un des steps qui a été pas pire.
Ouais.
Mais on est comme ça, tu sais, puis on a une équipe, tu sais, c'est pas rare là, des gens chez nous que ça fait 8-10 ans qu'ils sont là, puis ils n'ont pas de cheveux blancs, là. C'est des jeunes là, qui sont là, des vieux jeunes. Là.
Des vieux jeunes.
Ouais. Ah, le taux de rétention, en fait, de le processus de transformation numérique nous a amené à donner des opportunités qui fitaient dans les talents de nos gens. Non pas avec les études, parce que, tu sais, les études aujourd'hui, c'est bon peut-être 3-5 ans parce que ça va tellement vite.
Ça va vite
le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire pour nous. Avec le savoir-être, ben Gabriel, il y avait ce savoir-faire et savoir-être, fait que ça a été facile de... Il n'y a pas beaucoup de noms dans ce chapeau-là, mais parce qu'on connaît bien nos membres d'équipe. Puis, tu sais, je reviens à tantôt, on utilise le terme membre d'équipe chez nous. C'est pas une affaire de Walmart. Là. C'est vraiment qu'on est dans une équipe, on se doit de connaître les membres de notre équipe, les aspirations des gens. On a un processus de communication puis d'approche humaine, de ressources humaines, pour bien connaître qui sont nos membres d'équipe, quelles sont leurs aspirations, comment on peut s'assurer de les amener dans le top de la pyramide de Maslow, comment on peut transformer positivement leur vie. Là, ça revient à ça. Là. C'est pas fleur bleue, notre affaire. Là. C'est
vrai.
C'est vrai. Là, pis c'est trippant. Puis c'est hautement productif, cette affaire-là. Là. La meilleure équipe, tu parlais de le sport, ben c'est les mêmes joueurs là, qui vont gagner la Coupe cette année ou qui affrontent pas les playoffs.
C'est le collectif.
C'est le collectif
qui va amener à un certain niveau. Tu peux avoir des champions, oui, mais c'est le collectif.
C'est ça.
C'est le collectif.
En fait, la base du groupe mondial, c'est ça. Le groupe mondial, c'est un mondial de soccer. C'est les Français ont gagné contre le Brésil. Le Brésil avait beaucoup plus de bons talents, mais les Français ont joué en équipe
et, voilà.
Et ils ont gagné.
C'est encore la différence, même des fois aujourd'hui, quand on voit certains matchs. Là,
toujours.
Même si on les appelle les money teams, là, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est pas nécessairement eux qui gagnent. Paris Saint-Germain, je fais un clin d'œil des fois aux Français qui nous écoutent. On va investir beaucoup d'argent pour aller gagner la Ligue des champions. À date, on verra. On verra.
Attention, les Français vont te parler du Canadien de Montréal.
Oui, probablement.
On va lâcher le sport.
On revient. Je suis curieux par rapport, je reviens justement à votre équipe transformation numérique. Avez-vous comme mis en place une structure de meeting mensuel, hebdomadaire, une structure comme ça à l'interne?
Oui, ben on a essayé beaucoup de choses. En fait, là, oui, on avait au départ, quand l'équipe était moins officielle, disons, fait qu'on avait des meetings là, mensuels, on prenait vraiment plus de temps pour les grands alignements et tout ça. Mais là, on est vraiment rendu des meetings quotidiens, dans le fond, là, sur l'équipe rapprochée. pourrais prendre des méthodes agiles, Scrum, mm-hmm. etc. Bon, je suis pas très buzzword, là, mais bref, on a mm-hmm. les rencontres ouais. hebdomadaires quotidiennes. Tu sais, il y en a, c'est plus sur le quotidien, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les enjeux de ça. Mais, tu sais, on essaie de se re-questionner aussi à savoir c'est quoi les prochains enjeux. On parlait d'occuper tout à l'heure les priorités trimestrielles, en fait. Mm-hmm. Tu sais, ça nous aide aussi à mieux condenser un peu sur, ben, à mieux splitter un peu des fois des projets qui sont peut-être des trop grosses bouchées, mais là qu'on se donne des buts à atteindre en 3 mois. Puis c'est niaiseux, mais ça fait tellement déployer plus vite. Là.
Ouais, c'est
ça,
sûr,
c'est juste de morceler les projets et tout ça. Puis on focus là-dessus, on met des petites équipes. On s'entend, on n'est pas 25 non plus. Là, fait que on travaille au travers, mais il y en a toujours un qui porte plus le chapeau, disons, de l'idée le projet, mais les mm-hmm. autres sont là pour venir appuyer, aider dans différents mm-hmm. enjeux. Puis c'est ça, l'équipe, en fait, elle s'est bâtie un peu par elle-même. Là, je parlais tantôt avant d'avoir une structure vraiment officielle. Non, on prenait des gens, puis on s'organisait pour être capable d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, que ça les intéressait, des projets, puis ça les motivait.
Non, avoir la volonté, avoir la volonté de participer.
Les aspirations.
À ça. Exact. Tu parlais du savoir-être, c'est un peu ça.
Oui, oui. Et parfois, notre rôle, c'est de prendre un de nos membres d'équipe qui pense qu'il ne sait pas nager, puis de le tirer dans le creux.
Ouais, puis tu te rends compte finalement, tabarouette, c'est Michael Phelps. Là,
oui, genre, c'est ça. Ouais. Effectivement, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a. On est organisé, oui, on a le quotidien et tout ça, mais on apprend tous les jours aussi là-dedans. Là,
ah, ben
on
oui.
module, puis tu sais, à base, on est une shop de métal en feuille. Là, fait que, mm-hmm. tu sais, c'est sûr qu'il faut se moduler aussi avec le quotidien qui arrive, les urgences, puis les différents enjeux.
C'est sûr.
Mais reste qu'on a quand même au moins une ligne directrice, qu'on sait où qu'on s'en va, puis après ça, ben oui, des fois, on mange un peu de garnotte sur le côté, mais ça fait partie de la vie.
On aide aussi nos partenaires. On fait notre mission d'entraide et de partage quand même. On a des clients là, qui vivent le go live avec Épicard présentement, là, mm-hmm. ils sont là-dedans. Là. Mm-hmm. L'entraide, c'est pas la location, c'est pas des ventes. On a prêté nos talents les plus. Gabriel a aidé d'autres entreprises qui sont partenaires avec nous. Puis si on fait pas ça, c'est pas pécunier. Là. Faut que tu y crois. Là. Ouais.
Ben oui, puis ben ça, encore une fois, chapeau, parce que pas toute entreprise penserait comme ça. Puis c'est beau de voir justement l'entraide, le côté collaboratif là-dedans, parce qu'en effet, c'est pas facile. Vous avez une équipe, vous avez des têtes justement fortes là-dessus qui sont très, très, très. Qu'une expertise. Fait que c'est le fun de voir ce partage-là.
C'est un pilier du 4.0. Hein. Dans le 4.0, la collaboration en était un. Important. Fait que tu peux pas. Tu peux pas prendre 8 commandements sur 10. Il faut que tu essayes de toutes les faire. Là,
ben oui.
Fait que c'est ça la base.
C'est beau de voir ça. L'équipe est constituée à peu près combien de personnes actuellement?
Dans l'équipe rapprochée, là, on est 5.
Vous êtes 5. Ouais. Quand même, un beau nombre.
Ouais.
Un beau nombre.
Ouais.
Pour la suite des choses curieuses, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui pourrait être optimisé. Mmh. Avez-vous comme des projets un peu sur la table, sans peut-être des fois les nommer, là, je ne sais pas à quel point on va faire attention. Mais ça serait quoi un peu comme la suite dans l'amélioration continue de votre transfo numérique?
Oui, pour en parler d'un là, qu'on a fait, il y a deux niveaux, là, vraiment plus bureau, plus production. Je vais en prendre un peut-être production qu'on amenait jusqu'à un certain niveau, puis on passera peut-être un peu d'un bureau. Parce que tu ne veux pas, tu règles un problème, le goulot, il se tasse de place.
Ah ben oui, ben oui.
Le niveau production, on a regardé, on parle 4.0 connectivité machine, c'est un autre sujet assez important. Mais la réalité pour souvent bien des entreprises, c'est qu'ils n'ont pas des machines de toutes la même couleur. Fait que c'est des marques différentes. Mm-hmm. Fait que là, c'est un projet en soi déconnecté.
Okay.
Il y a des façons de le faire. Différents enjeux, nous, on a regardé ça. Il y a quand même... C'était complexe. Puis on n'avait peut-être pas nécessairement les personnes à l'interne pour le faire. Fait qu'on a reviré ça de côté. Du comment qu'on peut se rendre le plus proche possible de la connectivité machine sans se connecter dessus. Fait qu'on a décidé de se connecter à nos gens sur le plancher. Fait que le but, c'est comment qu'on peut s'organiser pour récolter de la donnée sans impacter ces gens-là. Puis le but, en fait, c'est très simple, c'est d'essayer de se coller à ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils font devant leur machine. Fait que, tu sais, le but, ça a été vraiment de rendre disponible la donnée à nos gens. Mm-hmm. Donc, nos opérateurs ont vraiment leurs données de performance, de ce qu'ils ont à faire, les plans journaliers, les productions qui sont attribuées aux machines devant. Eux autres sont attribués aussi aux machines, donc avec le fit, dans le fond, mais ils voient qu'est-ce qu'ils ont à faire. Leur performance, s'ils changent de machine dans la journée, ben ils sont capables de voir aussi leur monitorer, ben crime, j'étais bon au laser, j'étais moins bon au pliage et tout ça. Mais tout ça est ramené aussi au chef d'équipe qui, lui, voit vraiment son département, sa structure. Fait avant de commencer à faire son gamba, son tour de plancher, il sait un peu où s'enligner. Tu sais, crime, Jean, ça va moins bien aujourd'hui, je vais aller le voir tout de suite en partant, voir qu'est-ce qui se passe, une moins bonne journée. Ah, l'autre, je vais aller donner une tape dans le dos, faites une méchante belle matinée. Fait que, tu sais, juste, on parle de données, tu sais, quand t'es rendu ces machines, c'est correct, tout ça qui arrive en temps réel, mais en même temps, tu sais, il y a un coût à ça. Mm-hmm. Faut être prêt à le faire. Est-ce que tu as les machines pour le faire? Puis est-ce que c'est pertinent si tu vas changer après ça de machine? Bon, c'est une chose. Mais de se connecter plus rapidement, ça coûte pas plus cher de se connecter à l'humain. Tu sais, où on a mis plusieurs écrans ensemble qui existaient déjà dans le système, en fait. Puis on a juste modulé ça pour être capable de le donner accès. Puis tu sais, les gens sont fiers. Là. Ils regardent leur performance, puis ils veulent s'améliorer. Puis juste ça, ça fait des gros gains. On s'en rend pas compte. On regarde après ça, incrime, on a les données, puis tu vois ça montant en flèche. J'ai dit, OK, ça a dû marcher. Fait.
Ouais, là tu vois ton taux de mobilisation skyrocketer. Tu vois tes gens heureux, ça se voit dans les sourires. Ça se voit dans ton taux de roulement, ça va avec ta productivité, ça réduit des accidents de travail. Écoute, c'est tout un processus, mais que les gens puissent chacun avoir leur tableau de bord et de se benchmarker eux-mêmes. Tu sais, on n'a jamais été ben bâton, on a toujours été carotte pas mal avec notre monde. Fait que les gens avaient confiance, on n'a pas eu de manque de confiance. Hey, vous allez avoir nos données, là, tu sais, comme les écoles qui ont même plus le nom des enfants parce qu'on a peur que. Fait que on n'est pas là, nous autres.
Non, on est partage aussi.
Dans tout ça aussi, c'est clair qu'à un moment donné, on va essayer d'y aller vers la connectivité machine, mais on ne fait pas non plus tout le temps le même produit. On n'a pas notre produit. C'est des pièces qui sont souvent pas récurrentes. Donc, c'est pas une presse qui descend puis qui monte, c'est le nombre de cycles. Là, on a des pièces assez complexes. Fait que nous, on avait. Si on veut monitorer plus nos processus.
On est rendu plus loin que ça. On assemble on fait des produits final des clients. Fait que, tu sais, ça nous a amené. On n'aurait pas été capable de faire de produit final de nos clients de manière efficace si on n'avait pas fait cette transformation numérique-là. Et même qu'on tire sur nos clients de se connecter à eux pour être capable
Ça serait un peu le next step en plus.
C'est qu'ils seraient capables. Nos usines seraient de leurs usines. T'imagines-tu? Et c'est ça qu'on caresse comme rêve d'amener des gens, d'être vraiment connectés avec nous, qu'on peut être une usine de simulateur de vol, une usine d'autobus, une usine de camions électriques, une usine de véhicules électriques, une usine de batteries. On est là. On est capable de se connecter de même. Moi, je pense que c'est la pérennité de l'entreprise est vraiment importante pour moi. Rendu à mon âge vénérable, il faut que la relève soit capable d'avoir tout ce qu'il faut pour être en mesure de... qu'on parle encore de nous autres dans 100 ans, là, quand la planète sera à feu et à sang, on va être encore là, nous. Fait que...
C'est beau à voir, mais c'est des beaux projets, honnêtement. C'est le fun de voir qu'il y a une suite. J'étais curieux d'en entendre là-dessus, mais super intéressant. Puis pour finir, puis peut-être à chacun votre tour, un genre de conseil, brièvement, là, un genre de petit paragraphe pour les entreprises qui nous écoutent ou des experts qui veulent comme justement avoir ce sens-là, qui n'ont pas nécessairement, puis là le conseil va porter sur, qui n'ont pas nécessairement encore peut-être entrepris une démarche de transformation numérique optimale ou qui ont mis peut-être un premier pied puis qui ont peur ou que encore une fois, j'ai peur de ne pas avoir le temps ou peu importe c'est quoi le bémol relié à ça, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour faire ce premier saut-là, peut-être d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue peut-être vision. Je suis curieux de vous entendre.
D'un, c'est très simple, c'est commencer, du moins commencer à vous organiser. Puis une des façons de faire, peut-être, c'est de gagner, avoir la foi, mais la foi, on peut essayer d'aller s'aider à l'avoir, aller voir des entreprises. Il y en a des visites. Puis tu sais, allez pas juste voir ceux-là qui sont les top-notch, là, tu sais, c'est sûr que ça va faire peur, là. Mais dans votre réseau, allez voir d'autres entreprises qui ont commencé, puis il va en avoir des erreurs tout le temps. C'est normal, là, s'il va y avoir des up and down, mais il faut commencer à quelque part. Parce que ça ne s'améliorera pas. Là. Si on reste dans le statu quo, il n'y en aura pas de changement. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis sortir de chez eux, aller voir d'autres entreprises qui ont commencé, puis faites-vous bien épauler aussi. Si vous n'avez pas les ressources à l'interne, allez vous faire conseiller, voir qu'est-ce que ça prend, comment qu'on peut commencer, des audits 4.0, vraiment juste un diagnostic de j'en suis où actuellement, je suis vraiment dans le champ ou non. Puis après ça, ben, c'est d'essayer de grandir à l'interne, là, de trouver ses champions qui sont probablement déjà dans l'entreprise.
Dans votre entreprise. Ouais. Là. Ah, c'est bon aussi de le mentionner, d'auditer, de dresser l'état actuel. Mm. Voyez qu'est-ce qui est optimisé parce qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent très bien, peut-être des choses qui ne fonctionnent pas en tout, auxquelles vous n'avez pas pensé. Puis d'être niché aussi des fois là-dessus. Mm-hmm. Allez voir un, on parlait processus bureau, hein, ouais. Processus opérationnel. C'est juste si tu fais tout en même temps, mais là, même vous, vous ne l'avez pas nécessairement tout fait en même temps. Vous avez tout fait mm-hmm. d'un point de vue ERP, oui, mais d'un autre côté, aller cibler des choses spécifiques puis aller dresser votre état actuel, c'est un bon point, ça, mm-hmm. Gabriel. Oui, qu'est-ce que tu aurais à dire?
Ben, en fait, de l'écoute, de voir quel est le besoin de nos clients, quel est le besoin des membres d'équipe. Dans l'entreprise, souvent, les membres d'équipe ont une opinion et de l'écouter, c'est là que tu vas découvrir que tu as des talents à l'interne. Comme Gabriel l'a dit, c'est de faire le premier pas. Puis ça prend pas beaucoup de courage. Hein. C'est comme un podcast avant d'embarquer, on est nerveux un peu. Puis après ça, ben, ça va bien. Fait que c'est vraiment le premier pas est important. Et dans les conseils, c'est aussi ce qu'on avait fait. On a fait un projet pilote pour que toute notre équipe sache que c'était à échelle humaine. On a pris un département très spécifique avec un département qui manquait d'amour quand même pas mal. Puis on n'a pas pris un jeune whiz, on a pris un gars de mon âge et ça a été notre premier poster boy. Fait que si un bonhomme de mon âge est capable d'implanter ça, tu peux pas avoir... Il faut être capable de briser les paradigmes, de briser la peur et de la remplacer par la fameuse foi, puis de garder. Bruno, lui, il l'a fait. Là, regardez, venez voir. Là, venez voir de vos propres yeux. Oui, allez voir ailleurs, mais aussitôt que tu as des succès, il faut les célébrer. Puis bien mettre ça dans une bonne gouvernance. Mm-hmm. Bien mettre ça dans un processus humain. Puis aussi, le virage vert est interrelié avec ça. Fait que
ben oui.
Là, tu pognes la 5.0. Fait que si vous étiez latecomer avec la 4.0, pensez à 5.0, on est rendu là.
Oui, puis il y en a peut-être qui sont encore pris dans le 2, puis des fois parce que, ils ont pas fait le saut encore. Never too late, il n'est jamais trop tard. Puis à différents niveaux. Là,
le 0-100 est pas mal plus rapide à faire présentement. La technologie, elle existe.
Ouais.
Elle est là. C'est vraiment de l'appliquer à votre processus.
Puis regarde, tout ton collectif, là, mobilise tes gens. Le temps, on n'en créera pas nécessairement demain matin. Mm. Fait qu'à un certain moment donné, oui, on va être occupé. C'est un coup à donner. C'est un mal nécessaire, des fois, de souffrir à travers ça. Mais souffrir tout seul...
C'est
ça. Ça marche pas. Ouais. Des fois, souffrir en collectif, on s'entraide, puis il y a des fois de la motivation qui vient d'ailleurs, puis qui te permet d'aller atteindre un nouveau sommet.
Ben, si t'as pas le temps de t'améliorer, viens pas te plaindre que t'es pas beau.
Ben, c'est bien dit, ça, Louis. Non, mais en effet, à un certain moment donné, c'est ça. Hein, t'sais, faut prendre le temps de s'améliorer, puis voilà.
Ouais.
Messieurs, on a fait une belle heure de discussion. Un gros merci, Gabriel. Un gros merci, Louis, d'avoir participé. Ça a été super intéressant. Je pense que notre auditoire va en tirer beaucoup de ce contenu-là par vous. Des petits trucs et astuces, des mauvais coups. Puis c'est une belle histoire, honnêtement, que vous avez, qui est encore une fois en amélioration continue. Donc, ça serait vraiment avec plaisir de vous revoir dessus. Peut-être on va se laisser un petit 6 mois, 1 an, puis de parler peut-être connectivité machine, même parler de certains processus bureautiques qui ont été optimisés. Fait qu'encore une fois, un gros merci. Puis je vous dis à la prochaine, messieurs.
Merci beaucoup.
À la prochaine, merci.